Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est maintenant l'heure des oreilles loin du front.
Et oui, ce soir dans le dossier du jour avec les oreilles loin du front, on recevra quelques-uns et quelques-unes des artisans de la revue Jeff Clack. Alors après Marabout, Bout de Ficelle cette semaine et ce dernier numéro, c'est Selle de Cheval, mais je vous promets, on ne parlera pas maroquinerie, ni compétition, de, ni PMU, ni compétition de petits bucéphales. Il sera plutôt question des liens entre les animaux et les hommes.
Permettez-vous que j'emprunte votre oreille, histoire de vous raconter l'histoire de Mireille. Mireille est une mouche comme toutes les mouches. Le soir elle se couche, à l'aube elle se réveille. Un jour elle atterrit dans la cellule d'une crapule. Raymond était son nom, il tirait 20 ans de prison. Violeur, voleur, tueur, Raymond attend son heure. Abruti par l'ennui, la mouche le surprit. Raymond, bonjour la mouche, Mireille, bonjour Raymond. Soyons de bons amis et des amis pour de bon. La brute apprivoisée passant toute sa journée à jouer avec Mireille, pour bonne conduite et libérée. Qu'est-ce qu'on peut bien faire quand on sort de prison? Dans une poche une mouche, dans l'autre quelques ronds. Si je me faisais denteur de puce, des cafards et d'abeilles, je me ferais manager. La bête de scène serait Mireille. Oh ouais! Voyons ce que ça donne, voyons si tu étonnes les clients de ce bistrot. Mireille va faire ton numéro. Tiens, une mouche, pardon, dit le garçon, et d'un pouce farouche. Mireille.
Et oui, c'était Mireille de Dika Negarne pour commencer ce petit dossier relation entre les hommes et les animaux, puisque ce soir, nous recevons l'équipe de la revue Jeff Clack pour leur numéro Selle de Cheval.
Et pour ce numéro, du coup, je crois qu'il y a un CD.
Exactement, et nous avons en plateau Aude qui a participé au CD, mais qui est aussi peut-être, avant de parler du CD et de tout votre travail sonore, puisque là vous avez fait un western, ce qui est quand même assez original, ce serait peut-être bien de revenir peut-être sur l'histoire de ce collectif, parce que tu es toute seule en plateau, bientôt il y en aura d'autres,
non, il y en a d'autres,
mais
qui
vous
vont
êtes
me rejoindre.
Vraiment nombreux.
Ouais. On est nombreux, on est une trentaine, ce collectif il existe depuis 4 ans, et on a mis 2 ans pour créer le premier numéro. Et voilà, c'est un fonctionnement collectif pour créer ce numéro. C'est-à-dire qu'en fait, alors je ne sais pas si vous avez une idée, enfin je pense aux auditeurs de cette revue, mais c'est quand même un gros pavé, c'est presque un kilo.
Plus de 300 pages. Hein.
Plus de 300 pages. Ce sont des textes, des images, un CD de création sonore. Donc c'est assez multiforme, assez costaud.
Il y a des entretiens, il y a des
il y a une pluralité de formes, voilà,
il y a des BD, il y a vraiment tout, quoi.
Voilà, donc effectivement ça fait beaucoup beaucoup de formes différentes, et on a un fonctionnement collectif, c'est-à-dire qu'on se réunit en AG pour définir le thème, la thématique de chaque numéro, puisqu'en fait, juste pour rappeler, il y a une comptine, Marabout, Bout de Ficelle, Selle de Cheval, et on compte continuer, cheval
c'est de course, course à pied,
voilà, les trois petits chats. C'était dans l'idée de pouvoir se déplacer, c'est-à-dire d'aller chercher, d'arriver à des thématiques où on n'aurait pas forcément été de prime abord, et pour trouver du politique et du poétique là où on pensait peut-être pas y trouver quelque chose. Donc Marabout, on a travaillé sur le rapport entre croire et pouvoir et la magie. Bout de Ficelle sur le tissu, mais aussi les identités liées au tissu et au textile. Et Selle de Cheval, eh bien, on s'est dit, bon, la selle de cheval, la selle, c'est quand même ce qui relie l'homme et le cheval. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, quelles sont les relations qu'il y a entre les hommes et les autres animaux? Parce que finalement, on fait aussi partie des animaux. Et donc, c'est en assemblée générale qu'on a pu décider de l'angle choisi, et aussi pouvoir, comme je vous le disais, se déplacer. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer parler... pour les relations entre les hommes et les autres animaux, de rapports que de domination. Mais en fait, on se rend compte que c'est plus fin que ça. Il y a la, dans la domestication, il y a, oui, il y a de la domination, mais il y a aussi des rapports de complicité, même d'amour entre les hommes et les autres animaux. Donc c'est tout ça qui est travaillé et qui est fait en, en collectif.
Et peut-être tu peux nous rappeler le nom Jeff Clack, en fait, d'où ça vient et ce que ça veut dire ?
Oui, en fait, on voulait, comme la revue change à chaque fois de titre, on avait envie que ce soit quelqu'un qui nous réunisse avec un prénom et un nom qui puisse éditer. C'est Jeff Clack qui édite Marabout, qui édite Salle de Cheval, qui édite, etc. Et Jeff Clack, c'est, ça veut dire monsieur et madame tout le monde. Donc c'est en, alors en flamand, c'était pas le choix forcément. Enfin bon, le flamand, c'est comme. C'est parce qu'on s'est dit, tiens, Jeff Clack, c'était pas connoté ni trop féminin ni masculin. Enfin, on avait l'impression que ça faisait partie d'un, voilà, de quelque chose qui pouvait nous, nous représenter, quoi. Pour dire qu'on est un peu, parce que ce collectif voulait, pour le rappeler, on est d'horizons assez différents et on, certains sont dans le domaine de l'édition ou en partie ou se sont connus dans des luttes, notamment dans le monde de l'édition. D'autres ne sont pas du tout dans ce milieu-là. D'autres sont enfin d'autres peuvent être journalistes, d'autres pas. D'autres viennent de la création
sonore. Certains viennent de FPP.
Certains viennent de FPP. On dira pas qui. et en fait, je pense qu'il y a eu peut-être une envie. Qu'est-ce qui nous a tous reliés, c'est qu'il y avait peut-être un sentiment parfois de frustration d'espace d'écriture dans nos lieux, en fait, de frustration dans nos espaces d'écriture, bah, de ne pas pouvoir allier et le politique et l'esthétique, et de pouvoir, voilà, c'est pas parce qu'on est que, voilà, c'est pas parce qu'on est militant qu'on va, par exemple, complètement mettre de côté l'aspect esthétique et avoir, bah ouais, on avait envie d'avoir, de se faire plaisir avec des belles images, du graphisme, voilà. Et donc, c'est ça qui a fait peut-être qu'on s'est réunis, mais c'est très complexe de comprendre comment s'est formé ce collectif, en fait, hein, c'est une nébuleuse.
Et d'ailleurs, Jeff Clack, bah, dans son édito, parle de sa jeunesse et de comment il a eu des relations avec des animaux depuis sa plus tendre enfance.
Oui, alors c'était aussi, je pense, un jeu pour écrire cet édito. C'est dans l'aspect ludique aussi de l'écriture. On s'est amusé dans l'édito à dire, voilà, à 4 ans, Jeff Clack s'est violemment fait attaquer par un cygne et à 8 ans, il voulait être vétérinaire. En colo, il découpait les vers de terre et brûlait des fourmis. Jeff Clack n'aime pas les zoos, mais elle est bien obligée d'y aller si elle veut voir les girafes et le lamantin. Ça lui a quand même fait quelque chose quand il a dû tuer toute une portée de chatons. Jeff Clack ne peut pas avoir de chien dans son appartement, mais des souris vivent dans sa cuisine. Jeff Clack mange de la viande, mais n'a jamais tué un animal pour se nourrir, sauf une fois, un oursin, mais il ne sait pas si ça compte. Jeff Clack élève des vaches de mère en fille, mais avec la crise, ça va peut-être pas durer. Voilà, c'était aussi notre une entrée en matière de qui est Jeff Clack et de s'amuser aussi avec les clichés et comment nous, peut-être de prime abord, pour vous dire, on n'a peut-être pas tous réfléchi à nos relations avec les animaux, et en élaborant ce numéro, c'est ça, je pense, qui a fait qu'on a un peu plus creusé cet aspect-là.
Et puis dans ce numéro, on parle de selle de cheval, mais aussi de moutons, de grues blanches, de chiens, d'acariens. C'est très varié. Et on va de l'île de Pâques aux Alpes. Il y a vraiment une vision hyper globale de ces relations entre les hommes et les animaux. Alors on vient de recevoir Ferdinand, parce que Ferdinand est arrivé en plateau.
Bonjour.
Et alors, ça, le collectif.
C'est un collectif, puisque Aude, toi, tu t'es plutôt occupée d'ailleurs, je crois, du côté sonore.
Oui, puis je suis aussi dans le comité éditorial, on est dans pas mal, il y a différents comités,
C'est assez poreux, oui.
Ouais, c'est assez poreux. Et toi, Ferdinand, ça fait longtemps que tu fais partie du collectif ?
Je suis aussi poreux, oui.
Tu es poreux, oui.
Oui, depuis le début, un peu comme Aude, et puis voilà.
Donc, tu t'es plus particulièrement occupé du côté écrit ?
Oui, et de la maquette et de tout le reste, parce qu'il y a aussi toutes les tâches administratives qu'on fait, que fabrique aussi Aude et puis d'autres gens du collectif. Donc voilà, c'est vraiment, je ne sais pas si Aude l'a dit du coup, parce que je suis arrivé en retard, mais les tâches sont le plus possible partagées. On essaye de vivre le collectif le plus possible, sans vivre les uns sur les autres non plus, mais en tout cas dans ce qu'on fabrique et dans cet objet-là, oui, de faire tourner les tâches et de ne pas... Sur le numéro précédent et celui d'avant, j'étais aussi un petit peu sur le son, même si j'y connais rien en son. Sur celui-ci, je me suis mis de côté. Et puis inversement, des gens qui n'ont jamais fait d'écrit ou qui n'ont jamais réfléchi vraiment à des images se retrouvent pris dans des discussions, se retrouvent dans des comités visuels sur les images ou dans les comités éditoriaux, avec cette envie que, voilà, que ça ne devienne pas une séparation entre spécialistes selon les diverses formes d'expression que comporte Jeff Clack.
Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que depuis le début, le groupe Son, qui s'est constitué comme groupe, accueille, il y a des liens en permanence avec le comité éditorial pour, par exemple, faire écouter la pièce en cours d'élaboration ou les différentes pièces. Enfin, là, il s'avère qu'il n'y en a qu'une. Mais, et pareil pour l'aspect, ce que vient de dire Ferdinand sur le dialogue en fait entre tout, parce que certes il y a différents comités, mais en vrai ça dialogue entre les images et les textes. C'est les images, on essaie qu'elles ne soient pas des illustrations des textes, mais que ce soit des échos, que ça puisse rentrer en résonance ou au contraire être décalé. Donc par exemple, il y a un membre du collectif qui fait du cinéma, et lui ça lui plaît cette question qu'à la fin cette revue c'est comme un montage en fait. Enfin, c'est la question des résonances en fait entre images et textes, et puis voilà l'aspect sonore aussi.
Et puis, outre la revue et le disque, il y a aussi un site internet.
Oui, il y a un site internet qui est encore presque une autre forme, en fait, parce qu'on ne va pas y lire la même chose que ce qu'on va y trouver dans la revue papier. Puis surtout, ça peut rentrer un peu plus en résonance avec l'actualité, surtout ces derniers temps. Et on a un troisième membre du collectif qui arrive.
Qui va arriver, et qui arrive doucement mais sûrement, qui fait partie du collectif Son, d'ailleurs, dont on écoutera tout à l'heure une partie du western sonore. Mais peut-être avant cela, on va mettre un peu de musique, histoire de se positionner tranquillement mais sûrement dans le studio. Allez-vous, encore un peu d'animaux en chanson.
Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. J'avais pas vu Mirza. Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, satané Mirza.
Et oui, c'était Satané Mirza sur FPP, et vous écoutez Les Oreilles Loin du Front. Ce soir, on est avec les artisans et les artisanes du collectif Jeff Clack, qui viennent de publier la dernière revue de Jeff Clack, celle qui s'appelle Celle de Cheval. Donc il y avait Marabout, Bout de Ficelle, Celle de Cheval. Et on a Elisa qui est arrivée en plateau, qui fait partie du collectif sonore, puisqu'il y a un collectif qui s'occupe du côté papier, et il y a un collectif qui s'occupe plus du côté sonore. Et alors cette fois-ci, dans le CD, une surprise, c'est une création et c'est un western sonore. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le pourquoi du comment ?
Alors c'est un western sonore, mais surtout c'est la surprise, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais par rapport au CD d'avant, c'est que avant, les deux CD précédents contenaient des pièces différentes faites par différentes personnes, donc des fois des mini-groupes de 2 ou 3 personnes, mais aussi pas mal de créations individuelles. Et là, on a décidé pour ce numéro de pousser le truc du collectif au maximum et de faire ensemble, de réaliser, d'écrire, de réaliser, de monter une fiction. Donc un western, effectivement, où tout le monde a tout fait d'un bout à l'autre de la fabrication, ou presque. Au mixage, on n'était pas 9 au mixage, parce que pauvre mixeur, je pense qu'il aurait un peu pété les plombs, mais voilà, l'idée, c'était vraiment de tout faire ensemble. Et le pourquoi du comment d'un western ? Un grand temps de travail collectif au début de l'été précédent, donc il y a un an maintenant, quasiment jour pour jour, je pense. Et voilà, des discussions toutes plus folles les unes que les autres, où l'idée, c'était vraiment de voir tout ce qu'on pouvait imaginer, en fait. Et à un moment, une personne qui était là à ce moment-là, qui d'ailleurs n'est pas restée dans le groupe, a dit, parce que vraiment on est passé par des trucs de, on va faire une sorte de télé-réalité, une télé-réalité sonore, enfin il y a vraiment tout et n'importe quoi en fait, mais du coup quelqu'un a dit, mais ça pourrait être un western, et là on a fait, ah ouais, génial, un western. Donc on a commencé à ce moment-là à faire la liste de tout ce qu'on avait en tête de clichés du western, et puis après c'est devenu Pour qui chante le coq, ça s'appelle.
Bah, d'ailleurs, peut-être avant d'en reparler, on va écouter le début de ce western sonore qui est donc réalisé par le collectif Jeff Clack.
Hey Birdie, hey, wake up! Réveille-toi, il est tard! C'est étrange, Richie, il a pas chanté ce matin.
What? Quoi, Goody?
Il y a un truc bizarre. Il est peut-être mort. Et si c'est cette saleté de renard, je te jure, je lui flanque 2 balles de fusil dans le nard!
Dans la basse-cour. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh. Excusez-moi. Chut, s'il vous plaît, pas tous en même temps.
Ah, c'est Alichelle, mon chien, s'il vous plaît, il est où?
Les chiens sont partis, shérif. Et mes canards, ma douzaine de canetons.
Pourquoi?
Mon cheval! Get out of my way!
Oh, la petite bouchée!
Charlotte! Sally! Where are my fucking animals?
Alligator Wine. Quelque part entre le Kansas et l'Oklahoma.
Petit.
Un trou à rats au beau milieu du désert. Une bourgade où seules les divagations d'un pochard rêvant d'or, ou les râles d'un tricheur pris sur le vif lors d'une partie de poker, venaient parfois troubler la tranquillité. Ce matin-là, pourtant, une étrange fièvre semblait agiter les alligators.
Je crois que nous devons l'admettre, là. Les animaux n'ont pas seulement disparu. Ils nous ont quittés.
Non,
c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai.
L'heure est grave.
Décrétons une assemblée.
Oui.
Avec tous les habitants.
Oui.
Allez, placardez des affiches dans toutes les villes.
Allez.
C'est fou! Ça vendrait père et mère pour de la bouffe!
Est-ce que vous me préviens? Vous me verrez jamais courir après quelqu'un qui m'a largué!
Habitants et habitantes d'Alligator Wine, je vous rappelle l'ordre du jour. Que faire sans nos animaux? Il va falloir trancher maintenant!
Mais on s'en fout des animaux!
Bon débat!
Et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel. Et oui, c'était le début du western sonore créé par le côté sonore du collectif Jeff Clack. Alors, on a en plateau Elisa et Aude qui font partie de ce collectif. Alors, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez neuf pour faire ce scénario de... Parce que là, c'est le début du western, mais qui est bien sûr plus long, qui doit durer, je pense, 60 minutes ou...
Ouais, 50 quelques, ouais, une petite cinquantaine.
À peu de 50, ouais.
Mais là, à l'antenne, on a entendu plein de sons, plein de voix, plein d'acteurs. Donc j'imagine que ce n'est pas vous qui avez fait tout ça.
Non, on a fait appel à pas mal de personnes. Effectivement, comme on avait écrit ce scénario globalement assez ambitieux, avec plein de personnages, on a pensé à un moment que ça pouvait être bien que ces personnages, si, pour que ça tienne dans la durée, c'était aussi un peu notre inquiétude, parce qu'une pièce de 50 minutes, c'est, voilà, faut, bah, pour l'écouter jusqu'au bout, il faut que ce soit pas trop mauvais. Donc on s'est dit, bah, au moins, on va prendre des gens qui savent jouer, parce qu'on ne savait pas non plus si le texte, nous, on l'a écrit, il nous plaisait et tout ça, mais par exemple, on ne l'a pas fait relire... au comité éditorial ou au collectif. Donc on a décidé, comme on était déjà un groupe, nous dans le groupe, malgré le fait qu'on avait vraiment le nez dedans, on s'est dit on est suffisamment d'avis pour pouvoir trancher. Et voilà, c'est peut-être on a jugé après que peut-être on aurait dû aussi le faire lire, mais juste pour que les informations circulent. Mais bon, toujours est-il qu'on est parti avec ce scénario qu'on avait écrit à neuf. On a contacté des acteurs, on a contacté aussi plein de gens pour faire des figurants, parce que là, on l'entend à la fin de cette première plage du CD, il y a des assemblées, qui sont des assemblées populaires de prise de décision dans ce village qui s'appelle Alligator Wine. Et pour ça, fallait qu'il y ait une foule, quoi. Donc on a tourné à Sèvres, à la Générale de Sèvres, qui est un squat qui s'est fait expulser il y a quelques mois, mais qui à ce moment-là était encore occupé, qui est un lieu immense. Et du coup, on a tourné dans des escaliers avec, il y avait une vingtaine de personnes, je pense, un truc comme ça. Mm. Et voilà, des cow-boys braillards. Ouais.
Et les animaux.
Les animaux, tu veux dire quoi? Les animaux, qu'est-ce qu'ils sont devenus?
Ouais, par exemple.
C'est marrant parce que, on avait cette difficulté. La question des animaux, là, pour moi, concrètement, elle s'est posée pendant le tournage de comment faire sans les animaux, c'est-à-dire de ne pas pouvoir tourner à l'extérieur, par exemple. C'était une condition parce qu'il ne fallait pas d'oiseaux. Et c'est marrant parce que quand on est arrivé à la Générale, justement, on a commencé à être dans un premier espace où on s'est dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. En fait, on est en pleine nature, c'est impossible. Alors que c'est pas du tout le cas, mais il y avait des oiseaux partout, partout, partout. Donc là, c'était l'angoisse totale de ça va être l'enfer au montage de devoir effacer tous les oiseaux. Impossible. Donc on a dû chercher.
Parce que le pitch de base de la pièce est quand même que ça se passe dans un petit village américain lambda, donc dans le Far West, et que un beau matin, les animaux ont disparu, et que du coup, voilà, et que c'est pour ça que c'était un peu compliqué de tourner le son sans qu'il y ait un chien ou des oiseaux qui apparaissent en arrière-fond. Quoi.
Et du coup, c'est en creux finalement que les habitants se posent la question des relations qu'ils ont avec les animaux, puisque d'un coup, par ce manque, vont ressurgir plein de questionnements, même sur tout simplement le fait de ne pas manger de viande, sur les relations qu'on peut avoir. Certains personnages n'ont plus leurs compagnons. C'est vraiment tous ces aspects-là vont ressurgir de manière dans cette fiction. Et ce qui est, pour compléter ce que dit Elisa sur la fabrique, par exemple, partir sur une fiction, c'est venu petit à petit parce que, et je pense, et c'est la première fois pour beaucoup, moins que je me trompe, mais à part peut-être Elisa et Raphaël, mais on n'avait jamais fait fabriquer de fiction, en tout cas dans cette, enfin, puis avec cette ampleur-là, avec des comédiens, avec, enfin, et puis écrire tout un scénario. Et ce scénario, on l'a écrit un peu comme un cadavre exquis. En fait, une personne a commencé, puis a fait une première scène, et on se l'est envoyé, on l'a écrit à plusieurs mains. Le tournage, on l'a fait aussi à plusieurs. On était tous, on avait quand même des postes, on s'est quand même attribué certains postes pour que quand même dans le que ça puisse bien se tourner autour, puisse bien se passer au tournage, mais on était quand même 9 personnes en permanence à donner notre avis, donc c'était pas toujours simple aussi à gérer.
Il n'y avait pas juste un metteur en scène sonore, en fait.
Vous étiez 9, pas, en fait, il n'y avait pas de chef.
Ouais, on avait fait avant le tournage un temps où justement, pour se donner les grandes lignes, les intentions, et même après la première journée de tournage, on a dû justement reprendre un temps pour dire, quand je commençais à dire un truc aux acteurs, il n'y a pas 4 personnes qui derrière viennent dire, ouais, mais non, mais moi je pense que ce serait mieux comme ça, non, mais ce qui serait bien, ce serait dans cette intention-là, tu vois, tu sois un peu plus franc, un peu, parce que c'était très drôle, mais juste, on imagine un peu des acteurs sur un tournage essayer de comprendre ce qu'on attend d'eux avec 9 personnes qui donnent des indications différentes, et voilà, donc c'était un peu des petits trucs à préciser pour nous sur les postes, mais en fait ça s'est fait après assez organiquement, avec plein de frustrations aussi, avec beaucoup de des engueulades aussi.
Et clairement. Puis aussi, ce qui n'est pas simple, c'est trouver des lieux appropriés, puisque pas d'animaux, donc ça voulait dire qu'il fallait qu'on soit dans des lieux sans oiseaux, mais surtout, il fallait qu'on trouve tout simplement des espaces. Et au dernier moment, des fois, on n'avait pas les lieux de tournage. Enfin, c'était une logistique hyper... c'était une belle galère, mais on y arrivait bien, à 9 forces vives et plein de mails mail, une des boîtes mail remplies pour s'en sortir à la dernière minute et gérer des tournages quand même bien costauds avec beaucoup d'acteurs.
Faire manger les gens.
Et c'était une... Et puis sur des temps très concentrés, très limités, parce qu'on était un peu éparpillés partout en France. Et donc quand on se retrouvait, c'était sur des moments de tournage très définis. Et il y avait eu, deux week-ends
en fait,
de tournage.
On a eu deux week-ends de tournage. Donc ça fait 4 jours de tournage. Et on a eu, on va dire, une demi-journée pour enregistrer la voix off.
Et tous les effets sonores étaient faits en direct ?
Alors, il y a quelques éléments de bruitage qui ont été faits en direct, mais on a aussi pris un temps d'enregistrement avec deux bruiteurs.
Qui étaient des professionnels.
Élodie Fiat et Aurélien Bianco, ouais, qui sont, dont c'est clairement le métier. Donc, nous, on avait effectivement des petits trucs parce que dans les costumes de ces cow-boys et cow-girls, on avait accroché genre des cuillères aux bottes, enfin des trucs pour que ça chling-chling comme s'il y avait des éperons. Enfin, on a imaginé quelques trucs, mais bon, quand même, il en manquait, ne serait-ce que des bruits de pas sur un plancher où on a pourtant cherché des appartements avec plancher, mais au final on avait beau mettre des planches et tout, ça suffisait pas, donc voilà. Il y a plein de trucs qui ont été rebruités effectivement et remontés après
et ça, après c'était... on a fait du montage collectivement par petits groupes en fait, et donc il fallait être super organisé avec une session de montage qu'on s'envoyait enfin qui est énorme en fait, donc fallait qu'on et on travaillait à deux trois, on écoutait ensemble le montage, on réaffinait pendant des heures sur des détails.
Je pense qu'à 6 minutes 13, il y a un petit crack. Je ne suis pas sûre que ce soit dans le son ou alors c'est une erreur. Voilà, c'est 12 mails ça, pour régler une histoire comme ça.
Oui, c'est ça, c'est 4 jours de tournage, mais ouais, 6-8 mois, facile de boulot collectif.
Et un temps, c'est journalier, quoi, enfin, vraiment au quotidien. Quoi.
Et puis, vous avez fait aussi, à ce moment-là, un retour plus au comité éditorial de Jeff Clack. Enfin, aux autres, en tout cas, membres du collectif, ils n'étaient pas forcément investis dans la création sonore.
En janvier, en fait, on avait prévu un week-end de travail pour finir. On s'était dit, c'est notre dernier week-end de montage, c'est notre dernier rendez-vous. Donc, les gens qui sont à Toulouse, à Nantes, à je ne sais où, tout le monde vient, en Suisse. Et on finit ce week-end-là, on a 2 jours pour finir. On fait écouter le vendredi soir au collectif, et samedi, dimanche, on finit. Et puis, le vendredi soir, on a fait écouter au collectif. Et là, on a compris que c'était vraiment pas fini. C'était pas du tout en 2 jours qu'on allait régler l'histoire. Donc, mais c'était hyper intéressant aussi. Après, on a fait écouter dans des conditions d'écoute assez compliquées et tout ça, mais c'était. On avait déjà énormément travaillé, donc c'était à la fois compliqué à recevoir. Parce que après c'était pas mixé tout ça, donc forcément les gens disaient bon, on comprend rien, on comprend pas ce que les personnages disent, donc là, sur 50 minutes ça pose un petit problème quand même. Et puis après des choses de structure en fait, globalement des choses qui étaient pas vraiment comprises, ou après globalement c'est une fiction quand même qui a été écrite à plusieurs mains, donc elle l'a. Et on a voulu dire beaucoup de choses dans cette fiction, donc elle a un côté un peu patchwork, c'est une grande traversée au travers de différents personnages, de ces relations humains-animaux.
Plus, pour complexifier les choses, on voulait qu'il y ait une fin. On aime bien jouer avec les formes et on avait envie qu'il y ait du documentaire. Enfin, moi, c'était un peu mon dada, si je puis faire ce jeu de mots.
Pour celle de cheval, là.
qui est un moment documentaire qui puisse surprendre et qui puisse être quand même intégré dans l'histoire. Donc, on s'est amusé comment la voix off peut justement jouer avec ça pour lier le tout. Et aussi qu'il y ait des moments de pure évasion sonore. Électroacoustique, mais aussi des vraies parties musicales. Il y a un musicien qui a travaillé exprès, enfin qui a vraiment composé pour la pièce. Donc c'était un projet assez ambitieux avec aussi tous ces éléments. Quoi.
Il y avait justement pour avoir été extérieur au processus jusqu'à la fin, il y avait aussi de belles surprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu juste un comité de censure qui est arrivé au dernier moment pour dire ça craint, faut recommencer à zéro. Il y a eu aussi des belles surprises dans le sens où pas mal de thèmes qui avaient été abordés dans le CD se retrouvaient dans ce que nous, on avait fabriqué à la fois dans les images et dans le texte sur les 320 pages du numéro quand même. Et que du coup, il y avait des thèmes comme le véganisme, la zoophilie, la prédation ou plein d'autres choses qui n'étaient pas juste abordés parce que c'est des thèmes classiques du genre dès qu'on parle d'animaux, mais vraiment sur des sensibilités assez proches et même des fois avec des références plutôt complémentaires. Et voilà, ça, c'était plutôt de super belles surprises qui font que, voilà, que même si, effectivement, de la même manière que la partie texte ou la partie image ne communique pas tout le temps en permanence avec la partie sonore et inversement, à la fin, il y a, voilà, je pense que peut-être c'est à cause du fait qu'on en soit au troisième numéro et qu'on on fonctionne quand même beaucoup ensemble sur plein de choses. C'est-à-dire que les gens du comité sonore font partie du collectif et donc suivent quand même un peu ce qu'on fait. Et que du coup, voilà, y a une forme qui fait cohérence quand même à la fin, ce qui était assez chouette, quoi.
Oui, il y a une vraie cohérence. Et alors, le résultat est quand même assez extraordinaire de ce western sonore. Mais aujourd'hui, est-ce que vous l'avez fait, vous l'avez diffusé ? Je crois que toi, tu as travaillé avec les Scoutchos, c'est ça ?
En fait, il y a une soirée qui a été organisée à Marseille, dans un lieu qui s'appelle Manifesten. Qui était une rencontre entre le collectif des Scotcheuses et donc le groupe IT Son de Jeff Clack, parce que c'est ça le nom de ce mini-comité dans Jeff Clack. Parce que les Scotcheuses, c'est un collectif, il y a un article d'ailleurs dans Jeff Clack, un entretien donc sur eux, deux films qu'ils ont réalisés à Notre-Dame-des-Landes, qui sont du coup des westerns tournés en Super 8, qui ont été diffusés du coup à Manifesten. Nous, on a diffusé aussi notre western sonore. Et voilà, je ne me souviens plus de quelle était ta question, Juliette.
Bah, c'était justement le voilà, est-ce que vous l'avez diffusé en public ?
Oui, c'est ça. Du coup,
et voilà, et puis comme il y avait les Scoutcheuses aussi, de parler un peu de ce collectif.
Oui, il y a eu cette occasion donc à Marseille. Et alors après, le collectif des Scoutcheuses, c'est un collectif ami. Il y a des gens qui sont à la fois dans Jeff Clack et dans les Scoutcheuses, ce qui n'est pas mon cas, mais il y en a. Et eux, ils ont fait deux films vraiment, vraiment super beaux, très, très fantaisistes, qu'ils accompagnent d'ailleurs en musique. Et c'était... En fait, d'ailleurs, c'est marrant parce que finalement, à Manifesten, il n'y a pas eu de discussion d'organiser vraiment entre Jeff Clack et les Scotcheuses. Et du coup, par exemple, moi-même, je ne sais pas d'où vient ce... Alors, pourquoi ils ont fait un western, eux, par exemple ? Pourquoi ils ont choisi cette forme-là ? Bon, quand on voit leur film, ça semble assez évident, tellement le décor se prête à un western, à Notre-Dame-des-Landes, avec ses cabanes et ses tavernes. Et ses,
puis c'est l'ouest de la France.
C'est vrai que c'est aussi l'ouest de la France. Ah, c'est donc ça.
Et ce qui est chouette, dans l'entretien en tout cas des Scotcheuses dans le papier, c'est qu'on, moi, ce qui m'a plu, c'est de voir comment on fait en collectif, en fait, comment on crée à plusieurs mains, un film en Super 8, ce qui paraît assez fou, et aussi nous, comment, on s'est posé beaucoup de questions, et c'était génial à expérimenter comment on crée collectivement une forme où normalement, ces formes-là, qu'elles soient cinématographiques ou sonores, elles sont. Il y a souvent un chef. Il y a souvent. C'est très compartimenté, très segmenté. Et comment on fait quand on le fait en collectif ? Et ça, c'est des vrais. Enfin, c'était vraiment intéressant.
Ouais, ouais. Et comme on accepte que ça prenne plus de temps, comme on accepte la discussion permanente, la contradiction, mais dans un. Enfin, bon, après, voilà, évidemment, c'est ce qu'on fait dans Jeff Clack au quotidien, mais là. Comme on était tous co-créateurs de ce travail-là, comme on accepte que quelqu'un dise qu'on a une idée de merde, ou comme on a vraiment, vraiment très envie de défendre une idée et vraiment très envie qu'elle passe, et du coup, comme on crée aussi des situations de micro-pouvoir au sein d'un groupe. Enfin, voilà, on a traversé plein d'étapes. Très honnêtement, c'est littéralement épuisant. Enfin, nous, on en est tous sortis... fatiguée et éprouvée par ça, mais j'ai l'impression quand même que maintenant, que quelques mois ont passé, on est quand même vraiment très 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 heureux d'avoir fait ce choix-là, de le faire comme ça et jusqu'au bout. Il y a eu à chaque fois, tout le monde, je pense, à un moment s'est dit je vais abandonner, je vais laisser tomber, vraiment, très sincèrement, en se disant en fait je peux plus, c'est trop dur, et en fait tout le monde est resté, moi-même je suis assez impressionnée de ça au final.
Mais par contre, on est... Personne ne veut recommencer.
Voilà, c'est ça, clairement.
C'est l'unique western cas, sonore qui cas, se fera pour Jeff Clack.
Non, tout le monde fait une pause.
Pas tout de suite. Voilà, c'est... Oui, non, c'est sûr.
Et oui, et donc ce soir, aux Oreilles Loin du Front, on reçoit l'équipe de Jeff Clack pour leur numéro « Selle de cheval ».
Nej, en pøkker
paper girl. Number girl, number girl now. Now I got my heart here in my hand. Now I got my heart my hands now. Now I've been searching for my wings. Now I've been searching for my wings sometimes.
Et oui, c'était Anthony and the Johnson qui était donc un oiseau pour le moment, puisque ce soir, on reçoit l'équipe de Jeff Clack autour de leur numéro Selle de cheval. Et dans ce numéro Selle de cheval, il est question des relations entre les hommes et les animaux. Alors, on parlait tout à l'heure du western sonore, mais Jeff Clack, c'est avant tout peut-être une revue. Alors, peut-être pas que avant tout, parce que là, le comité sonore est en force. Mais nous avons Ferdinand autour des micros qui a participé donc à cette revue. Et toi, tu as fait en particulier un entretien avec Josh Harper qui parle des luttes pour la défense des lapins.
Oui, enfin, pardon. Des animaux en général, en tout cas des autres animaux, parce que voilà, on a essayé de reprendre à travers tout le numéro cette catégorie utilisée par les véganes, donc les personnes qui ne mangent pas d'animaux ni de production issue d'animaux, qui essayent de dire il y a les humains et les autres animaux, ou alors il y a les animaux non humains et les humains, pour essayer de montrer qu'il y a une continuité, qu'il n'y a pas de rupture totale entre l'espèce animale et l'espèce humaine, et que c'est la même espèce. Et oui, il y a cet entretien avec Josh Harper, qui est un militant états-unien pour le droit des animaux et pour la libération animale, qui rentre en résonance avec d'autres textes. En fait, je pense que Jeff Clack fonctionne beaucoup comme ça, par effet de lien entre plusieurs textes. On arrive à reconstituer le puzzle, en général, à la fin, et ça demande pas mal de temps de lecture, parce que c'est assez épais. Mais l'idée, c'était de confronter à la fois des visions assez radicales sur le droit animal, avec qui est très répandu dans les pays anglo-saxons, avec des visions peut-être plus franchouillardes, on va dire, plus françaises, qui sont par exemple l'anti-industrialisme, où on retrouve beaucoup de thèmes communs avec la question animale, mais souvent portés par des éleveurs, donc qui rentrent aussi en contradiction avec les personnes qui luttent pour la libération animale, qui refusent l'élevage, quel qu'il soit industriel ou artisanal, ou voilà. Et même, c'est allé un peu plus loin dans la discussion, avec il y a un autre entretien qui a été fait à à quatre mains par Romain, Mika, Natacha et Bruno de la revue, qui est avec Jocelyne Porcher et Élise Gagnard, qui essayent de faire le lien entre bien-être animal et souffrance au travail, en essayant de montrer que c'est les deux, souffrance au travail et bien-être animal, sont des néologismes créés en gros par les logiques dominantes pour essayer de faire croire que ça va s'arranger, mais qu'en fait on ne fait que des micro-aménagements qui perpétuent en gros le système capitaliste et la situation actuelle. Et donc du coup, il y a toutes ces discussions-là qui d'habitude n'ont pas lieu et qu'une revue permet de faire exister, c'est-à-dire comment en passant d'un texte à l'autre où il y a des positions assez différentes sur des registres a priori opposés, on arrive à faire discuter les textes, les idées et surtout les formes de lutte en fait.
Oui, parce qu'il est même question de féminisme et d'éthologie, comment les femmes primatologues ont changé le point de vue sur les grands primates.
Il y a ce texte-là qui est là pour le coup un entretien avec Vinciane Després, qui est une chercheuse qui vit en Belgique et qui, elle, a beaucoup travaillé sur les rapports entre la science, la scientificité et ce que les animaux nous permettent, et non pas le regard presque des scientifiques, mais ce que les animaux nous permettent de comprendre de notre propre condition et notre propre organisation sociale. C'est-à-dire comment, en observant des primates, et surtout comment, en observant les gens qui observent des primates, on arrive à comprendre, par exemple, la domination masculine, c'est-à-dire comment, en gros, des chercheurs hommes vont plutôt avoir tendance à calquer des logiques patriarcales sur les organisations sociales animales et du coup fausser complètement leurs observations parce qu'ils sont juste eux-mêmes complètement embourbés dans leur propre schéma de compréhension et de forme de vie. Et comment, à un moment donné, quand on analyse ça, on permet à la fois de dénoncer le sexisme ordinaire et pas que ordinaire, parce que quand il passe dans le champ scientifique et qu'il s'impose comme vérité absolue, ça devient un petit peu plus compliqué. Et non seulement ça, mais aussi comment ça renforce en quelque sorte une position de résistance pour des femmes, c'est-à-dire de pouvoir dire on peut nous aussi, en observant les animaux et l'organisation, dire des choses sur eux et puis sur nous, c'est-à-dire comment on se débrouille quand même autrement que ce que vous, les mecs, vous pensez. Nous, les mecs, on pense.
Et alors toi, tu as travaillé aussi sur un sujet, parce qu'en fait, ce qui est marrant dans Jeff Clack, c'est qu'il y a des entretiens plutôt intello, mais il y a aussi des dessins, et puis il y a beaucoup de culture populaire. Alors dans les autres numéros, il y avait pas mal d'articles autour de séries, autour de bandes dessinées. Et là, toi, tu as travaillé, je crois, sur Rocky Balboa, c'est ça?
Oui.
Tu as regardé tous les Rocky et pour étudier les rapports...
Non, pas tous. J'étais resté sur de vieilles impressions qui dataient de la fin des années 80. Et non, mais je me suis aussi cassé la jambe, ce qui a permis effectivement de me donner le temps de regarder les 7 Rocky qui durent sur 30 ans et qui mine de rien, ont beaucoup de choses à dire sur les animaux. En fait, on se rend compte qu'en regardant Rocky, il n'y a pas que de la boxe, il y a beaucoup d'amour. Déjà, et il y a beaucoup de philosophie, même si elle est assez primaire, mais il y a beaucoup de philosophie. Et il y a surtout un vrai discours sur le rapport aux animaux, dans le sens où donc Rocky, interprété par Stallone, et qui joue un peu son propre rôle à l'époque, puisque c'est l'histoire d'un boxeur qui va tout jouer sur un match, d'un boxeur complètement paumé, qui va tout jouer sur un match de la même manière que Stallone a tout joué, qui était un acteur paumé, un réalisateur paumé, a tout joué sur ce film et a réussi. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses sur comment, en fait, par le regard animal, par la métaphore animale, en fait, on apprend beaucoup sur à la fois notre rapport à l'humanité, à la tendresse, à la conflictualité et à tout cet ensemble de choses, et puis surtout au rapport de domination, encore une fois, parce que je pense que on essaye de parler de culture populaire, mais pas juste d'une manière en faisant des commentaires esthétiques ou divertissants, mais en essayant de voir qu'est-ce qu'il y a de politique, qu'est-ce qui joue, pourquoi un film comme Rocky a autant marché, qu'est-ce qui joue de politique là-dedans. Et toute l'histoire de Rocky tourne autour du fait qu'il ne devient humain, en fait, Rocky, qu'en acceptant à un moment donné d'avoir un rapport un petit peu décomplexés aux animaux et en les mettant à la bonne place, c'est-à-dire ni en les considérant comme des êtres à dominer absolument et à saccager, ni en les considérant comme des êtres à adorer et à mettre à part de l'existence, mais vraiment comme des êtres qui sont là avec nous et qui ont un rapport de tendresse, de conflictualité, de tout un ensemble de choses qu'il joue lui-même dans la vraie vie, quoi.
Et puis je crois que comme dans les numéros précédents, outre des entretiens et des articles que vous avez écrits, il y a aussi des traductions, non ?
Ben y a, oui, il y a beaucoup de traductions. Il y a oui, mais c'est juste dans les traductions. Non, mais c'est que je les ai pas toutes en tête, c'est pour ça. Il y a le blues des grues blanches, mais que je n'ai voilà, c'est aussi ça, Jeff Clack, c'est-à-dire qu'on connaît pas forcément toutes les. Par exemple, le blues des grues blanches, ben, c'est le seul article que j'ai pas lu dans tout ce que j'ai relu. Donc c'est pour ça que je ne peux pas trop en dire plus.
Un article sur...
Sur la violence du soin dans la préservation des espèces.
Exactement.
Et il y a aussi...
Comme
et
ça quoi, même si une espèce est protégée, ça ne veut pas dire que les espèces sont bien traitées.
Bien traitées, ouais, ça ne veut pas forcément...
C'est les individus... En fait, c'est comment, dans un programme de conservation des espèces, on va s'attacher à une globalité, un peu comme on s'attache à une population pour les humains qui doit être en santé ou en bonne santé, ou du coup, on va créer des dispositifs hygiénistes pour que l'ensemble de la population, statistiquement, n'ait pas trop de maladies. Mais quand on regarde les individus les uns après les autres, et surtout quand il n'y a plus beaucoup d'individus, puisque là, on est dans le cadre d'une préservation in extremis de certaines espèces en voie de disparition, du coup, on se rend compte que les individus sont absolument maltraités, qu'ils sont pris dans un dispositif hyper violent, et qu'on s'en fout complètement de leur bien-être et du fait qu'ils sont dans un cadre plutôt sain et serein et libre. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est qu'en gros, à la fin de l'année, on puisse dire qu'on a 50% de chance en plus que cette espèce, après l'avoir complètement détruite, continue à perdurer dans une réserve naturelle. Et que donc, du coup, on crée tout un ensemble de pratiques, comme par exemple là, pour les grues blanches, qui ont une forme de reproduction qui joue beaucoup sur... la séduction et qui marche par j'ai oublié le mot, mais en tout cas qui s'imprègne d'un être, et ça peut être une grue comme ça peut être un humain comme ça peut être une balle de ping-pong. C'est-à-dire que plus la grue va passer de temps avec une chose ou un être, plus elle va s'imprégner de cet être et donc en tomber amoureux et le considérer comme son partenaire légitime. Et donc, on se retrouve avec des gardiens de grues qui jouent à la grue pour les séduire, faire en sorte que ces grues s'imprègnent d'eux et ensuite les faire couver à répétition des œufs, c'est-à-dire augmenter la fréquence de reproduction des grues grâce à ce stratagème, et donc leur faire pondre non pas un œuf, mais 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à les épuiser, de manière à augmenter le cheptel de grues. Et en gros, en leur menant une vie absolument infâme.
D'où la question du bien-être. Et il y a aussi, comme tu parlais des diversités des formes dans les traductions, il y a l'évasion de Samy, qui est une bande dessinée qu'on a depuis longtemps sous le coude, et on a bien fait de la garder, puisque là, elle tombait à point nommé dans ce numéro. Je vous laisserai la découvrir.
Et outre les bandes dessinées, il y a aussi des photographies. Il y a tout un travail photo qui est fait avec Jeff Clack.
Oui, il y a tout un travail donc à la fois de portfolio, mais de dessin, enfin de portfolio de photos, et puis de dessin. Et par exemple, là, pour parler du groupe son, ça c'était une chouette expérience. On est allé demander à une illustratrice une carte blanche pour illustrer le western. Donc on a été un peu surpris par la première version qui était un peu... trash et qui c'était chouette d'avoir son regard sur comment elle percevait le western et quelle forme elle en donnait au niveau du dessin. Et donc ça, c'est des chouettes interactions.
Et puis il y a aussi toute une dimension sociale dans les articles. Il y a par exemple un article sur les, alors on va pas dire les punks à chiens, mais les chiens à punk.
Oui, enfin. Tu viens de dire les punks à chiens, les chiens à punk, oui. Oui, c'est ça,
En gros, c'est un peu comme sur l'histoire des glues. L'idée dans ce numéro, en général, Ça n'a pas été de prendre le point de vue des relations entre les hommes et les animaux dans ce sens-là. Ça a été le plus possible de voir qu'est-ce que les animaux avaient à nous dire, en fait, sur les relations qu'on entretenait avec eux, en fait. Et donc, ça veut dire que, par exemple, effectivement, plutôt que de faire un texte sur les punks à chiens, c'est un texte sur les chiens à punks, c'est-à-dire essayer de voir en quoi la manière dont vivent les chiens qui ont des punks, en fait, apprend non seulement sur les punks, mais sur la manière dont cette société s'occupe des gens qui vivent dans la rue, et des gens et des chiens. Et du coup, voilà, c'est vraiment essayer de, on a essayé de déplacer le point de vue au maximum et de plutôt montrer la relation des animaux avec les humains, sachant qu'il y a un effet de domination inverse, hein, entre des humains aux animaux, mais voilà, en essayant de prendre leur point de vue et de voir qu'est-ce qu'ils avaient, eux, à nous dire, en fait.
Et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Et on reçoit ce soir l'équipe de Jeff Clack à l'occasion de la sortie de leur lit, de leur revue, celle de cheval. Oulala, le CD a sauté et je pense qu'il va sauter et il sautera.
C'est les punks à chiens.
C'est les punks à chiens qui ont transformé Thomas Fersen, qui fut un punk il y a bien longtemps, et on voulait passer Bucéphale de Thomas Fersen, mais a priori le CD sautit où il est tout crade. Mais on va passer une vraie punk qui n'a pas de chien, mais ça va être dans quelques instants, parce que là bon, on a dans l'équipe ce collectif Jeff Clack à l'occasion de la sortie. D'ailleurs, c'est sorti il n'y a pas longtemps, mais je crois que vous faites une sortie.
C'est déjà un petit moment.
Vous faites une soirée de sortie, hein, c'est ça, mon
De sortie tardive, justement.
De sortie tardive.
C'est vendredi. Vendredi, donc on sera le 1er juillet.
Ouais. Le 1er juillet.
Au et pour ceux qui écouteront la rediffusion, ce sera le jour même.
Voilà, le soir, je crois, j'imagine.
À 19h au Mont-en-l'Air. Et...
Rue de la Mare, dans le 20e. Deux rues de la Mare.
Mais avec un groupe avec un nom très approprié pour l'occasion, The Mouche.
Ah bah
faut
oui,
absolument.
Ah dis donc, qu'est-ce que c'est cohérent cette émission. On a commencé par Mireille la Mouche et vous aurez The Mouche.
Tout se passe très bien.
Tout se passe très bien.
Every night before I go to sleep. Find a ticket, win a lottery. Scoop the pearls up from the sea. Cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't be bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, it would mean so jet plane, babe. Get you on a high plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet then and take you down deep where it's hot, hot in the radio, baby. Then cool, cold in fields of snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we're dreaming, when we're dreaming, when we're dreaming. Dreaming for free, free money, free money.
connu, c'était Patti Smith et Free Money. D'ailleurs, on a en plateau toute l'équipe de Jeff Clack. Et alors,
ah non, pas toute. Hein.
Une petite partie de l'équipe de Jeff Clack. Et alors, on n'a pas parlé au début, mais là, on parle de Free Money. Mais est-ce que vous êtes des free travailleurs qui travaillaient grosso modo bénévolement pour cette chronique? Pour cette... Pour cette chronique aussi, on travaille bénévolement.
Juliette,
ici.
Est-ce que tu travailles bénévolement mais pour oui. cette émission?
Ben, en non, fait, mais on... par rapport oui. au capital.
Non, mais voilà. C'est une vraie. Enfin, c'est une question qui se n'est pose pas forcément dans l'économie de Jeff Clack, parce que comment on fait pour avoir, pour produire une revue de 300 pages aujourd'hui? Et là, bah, ça fait depuis février qu'on a un contrat aidé, un emploi aidé dans la revue, qui permet en fait de pouvoir faire toutes les tâches un peu de coordination entre différents comités. Et aussi administrative, mais sinon tout le monde est bénévole et depuis le début en fait, enfin voilà, mais c'est vraiment que depuis cette année qu'il y a ce contrat aidé. Et en fait, pour le dire clairement, on vit qu'avec les subventions et les abonnements, enfin et la vente des revues, mais c'est pas ça en fait qui permet le, enfin si on avait que la vente des revues, on s'en sort, enfin on peut pas s'en sortir en fait vu le coût que ça nous, enfin c'est énorme en fait de même à l'impression et puis ensuite de, enfin la diffusion, on a un diffuseur donc on voilà qui prend une grosse marge, donc en fait c'est vrai que pouvoir vendre à la main, faire les abonnements, enfin c'est vraiment important. Et en même temps voilà, sans cette aide des subventions, enfin voilà, on tient pas pour le moment quoi, même si on avait le rêve d'une revue qui permettait en fait, dont les recettes permettaient d'aller de payer la suivante, mais ça c'est pas, on n'est pas arrivé là quoi.
Et c'est des subventions de qui alors?
Il y a la région Île-de-France et puis la DRAC en fait, ouais, si je dis pas de bêtises. Ouais.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Jeff Clack est assez bien distribué, on le trouve un peu partout.
On le trouve partout en France et il y a en fait 4000 exemplaires. De chaque numéro, donc
voilà, il n'y a pas forcément besoin d'aller, bon, même si c'est très 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 bien d'aller chez le petit libraire indépendant, mais à la FNAC,
c'est très bien, aller mais partout chez le libraire indépendant,
c'est à dire que même dans les FNAC, on les trouve,
oui, on trouve quand partout, même, après, voilà, c'est distribué. C'est bien de demander à son libraire de le commander, de l'avoir, enfin, je pense que c'est comme ça que ça
marche. Ouais. Donc là, on sait marabout, bout de ficelle, celle de cheval. Après, ce sera
cheval de course. Donc, on se demandait comment. Il y avait deux possibilités. Parce que cheval de course, on pense au PMU, on pense au Paris. On s'est dit, mais c'est aussi la vitesse. Alors, est-ce qu'on part là-dedans? Finalement, non. Ça, c'est tout le jeu des assemblées générales. Et en fait, on a envie d'aller sur le jeu. Le jeu, mais quel. Voilà, là, on est en train de resserrer justement l'angle. Et sûrement sur. Quand même revenir sur le cheval de course. Course, c'est le pari, donc il y a une mise, donc on voilà, c'est jeu où on mise, où on se met en jeu, où il y a voilà, on joue parfois gros. Est-ce qu'on joue d'ailleurs sa vie? Est-ce qu'on voilà, mais ces moments où cette zone grise, parce qu'on aime bien aller dans ces zones là, où le jeu peut basculer dans le sérieux, voilà, qu'est-ce qui et en même temps ça reste du jeu, enfin c'est ça le propre du jeu. Donc voilà, on est en train de défricher. Hein, donc c'est d'ailleurs appel à contribution. Si vous avez des envies de nous proposer des textes, des sons, des images, vous pouvez voilà nous les soumettre et nous l'envoyer à contact@jeffclack.org.
Car là, j'imagine que vous n'allez pas repartir dans un western sonore ou un trader sonore, une création de fiction collective.
Non, non, non. Là, d'ailleurs, c'est très. Enfin, pareil, c'est tout frais. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a pas mal de gens nouveaux qui sont venus, qui ont envie de faire du son dans Jeff Clack. Et là, on va sans doute. On a envie de jouer sur cette question du jeu. Donc, sans doute en se passant des matières sonores qu'on peut réutiliser les uns les autres. Est-ce qu'on ne va pas avoir une règle du jeu qui va quand même lier ces différentes pièces entre elles, voilà, ça se cogite, mais on a déjà sans doute un personnage de casino qu'on va suivre, qui en fait lui son truc c'est de jouer, il joue au poker mais de manière voilà, il gagne bien au poker pour jouer après pour perdre tout son argent au blackjack, voilà. Bon, mystère à suivre.
À suivre, à suivre. Et puis, dans ces numéros de Jeff Clack, à chaque fois, il y a le thème et puis il y a quelques sujets hors thème. Alors, je crois que toi, Ferdinand, tu as un peu travaillé sur le hors thème.
On travaille vraiment sur l'ensemble. C'est vrai que voilà, il y a ce thème où on réfléchit vraiment collectivement à des problématiques qui fassent sens et qui posent plusieurs questions communes. Et ensuite, il y a toujours des textes, des envies qui viennent un peu au dernier moment ou qui viennent en cours de route, qu'on a aussi envie de publier. Et puis il y a les chroniques.
récurrentes, que ce soit sur le punk, que ce soit sur les séries, que ce soit sur la musique, les films ou même des chroniques un peu poétiques. Et donc il y a toujours cette partie d'Orthème qui nous tient assez à cœur et qui, par exemple, dans le dernier, il y a une chronique sur un groupe qui s'appelle Submission Hold, qui est un groupe de punk qui parle un petit peu des débuts de la gentrification aux États-Unis et comment la musique, à un moment donné, a pu être support de résistance et ancrée dans des quartiers pour résister aux effets de gentrification. Il y a un autre texte sur l'éducation populaire en Amérique latine et comment des expériences concrètes permettent de lier à la fois des envies révolutionnaires et des écoles, on va dire pas efficaces, mais en tout cas des écoles qui tiennent la route et qui permettent une vraie éducation aux gamins. Et puis, il y a, comme je disais, beaucoup de traductions du portugais, de l'allemand, de l'anglais,
du
norvégien, pour ce numéro-là. Première. On est passé par pas mal de langues, l'arabe, le norvégien, le tchèque.
Et d'ailleurs, quelles sont vos relations en tant que collectif avec les autres collectifs en lutte ? En ce moment, il y a la lutte contre la loi travail, il y a les zadistes, il y a les Nuits debout. Est-ce que, en tant que collectif, vous avez des relations avec ces différents groupes de lutte ?
En tant que collectif, je pense pas. Je pense qu'on évite. On essaye de séparer les choses. Après, il y a beaucoup de gens, et ça, il ne faut pas le nier, dans le collectif qui participent à des mouvements de lutte ou à d'autres collectifs de lutte. Et je pense que, justement, la revue de Jeff Clack est un moment pour toutes et tous de prendre un peu de recul. Et c'est ça qu'on essaye aussi de donner aux lecteurs et aux lectrices, c'est-à-dire un moment où, par rapport aux urgences du quotidien et par rapport aux urgences de ce monde de merde, on essaye de penser à des thèmes un peu décalés, d'où la comptine Marabout, Bout de Ficelle, Celle de Cheval, qui nous permet de ne pas faire quelque chose sur la répression, le nucléaire, le sexisme, etc., etc., même si on retrouve tous ces thèmes à l'intérieur. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre... C'est tous les ans, donc on a un an pour lire la revue, et entre deux tirs de lacrymogène, on peut se reposer le week-end ou le matin, et puis lire Jeff Clack et essayer de voir comment la prochaine fois on pourra être plus nombreux en essayant de penser aussi autrement les choses et en essayant de prendre un petit peu d'air par rapport à la puanteur actuelle. Voilà. Donc c'est un peu tout ça. Et
puis il y a le site internet aussi qui permet d'accompagner, on va dire, sans vraiment le coller de trop près, parce qu'effectivement la question de l'actualité nous intéresse qu'à moitié. Du coup, le site internet permet de republier des articles qui ont été à un moment dans le papier dans les numéros précédents, mais qui peuvent avoir des échos avec ce qui se passe au quotidien pour chacun d'entre nous, et notamment ces luttes là, contre la loi travail particulièrement, et aussi
par exemple, le dernier l'article en ligne en ce moment, c'est un long entretien avec 6 personnes du mouvement à Rennes. Toujours avec ce truc où c'est un entretien qui prend du temps, qui fait 30 000 signes à peu près, donc c'est pas en 2 minutes qu'on l'a lu, et c'est pas forcément sur des questions qu'est-ce qui s'est passé hier et qu'est-ce qui va se passer demain, c'est plus sur comment on s'investit dans une lutte, quelles sont les contradictions internes, quelles sont les difficultés, quelles sont les joies qu'on peut retrouver dedans, et comment on peut s'organiser de manière plus générale. Donc on essaye à chaque fois, effectivement, ça peut traiter d'actualité ce qu'on fabrique, et notamment sur le site, mais en essayant toujours de prendre un petit peu de recul et de se dire on n'est pas pressé non plus, même si on est déjà pressé suffisamment dans notre vie active de tous les jours. Et la lecture, ça doit aussi être un moment de réflexion et de pause, en fait. Et voilà, il y a d'autres sites qui font ça très bien. Il y a Paris Lutte, il y a Reporter, il y a Basta qui font un super travail, par exemple, sur les questions d'actualité. Et nous, on essaye de ne pas en être trop loin, et en même temps, de pas être pris par l'urgence, en fait.
D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'on a republié, il n'y a pas longtemps, un tract égyptien, enfin au Caire, qui était diffusé au moment de la Révolution. Et on a trouvé ça opportun de pouvoir le publier, alors qu'on l'avait publié dans le premier numéro. Mais là, de le remettre en ligne sur le site internet, c'est encore un moyen d'entrer
en résonance sans coller tout près.
Effectivement, c'est un conseil aux manifestants et sur comment se comporter.
Et comment s'habiller et être bien équipé pour aller en manifestation. Donc, Et quand même, par rapport à cette... tu parlais des collectifs et de la lutte, il y a quand même des réseaux de médias en lutte qui sont présents. Et on organise pour le 16, si je ne me trompe pas, c'est le vendredi 16 septembre, une soirée, une fête voilà, des médias en lutte. Il y aura fanfare, groupe de musique, on ne sait pas encore où, mais on compte bien faire une grosse fête qui sera suivie de rencontres plus internes, mais de comment on pourrait s'organiser.
Avec d'autres collectifs de médias, j'imagine.
C'est ça, d'autres collectifs. D'ailleurs, FPP, invité, voilà. Et pour continuer dans cette lancée.
Et puis, si on veut vous aider, est-ce qu'on peut vous contacter, soit pour, je ne sais pas, si on a des idées de papier, vous donner des sous.
Mais en fait, le collectif est ouvert, donc si vous retrouvez
à un moment donné quelque part, physiquement.
Ben en fait, c'est complètement possible parce que le collectif est ouvert. On peut se rencontrer pour un café, puis après proposer de venir à une AG pour voir comment ça se passe. Enfin, ça se fait assez facilement en fait. Il suffit de nous écrire, il suffit de nous demander ou nous rencontrer lors des soirées, comme par exemple là, le 1er juillet au Mont en l'air, ou nous envoyer des propositions de textes, ou même des fois on a besoin de coups de main parce que c'est quand même y a plein d'aspects logistiques, même pour organiser ce collectif. Et on est preneur en fait de coups de main. De gens qui ont envie de s'y investir en fait. Enfin, y a pas de, c'est ouvert quoi. Donc.
Et des fois les réponses prennent un tout petit peu de temps parce qu'on est un collectif et qu'il se passe plein de choses et que cette revue elle est vivante et que ce collectif il a beau être constitué de pas mal de monde, il y a des préoccupations plus ou moins urgentes et, voilà.
Mais du coup mais on répond patient, quand même au mail
complètement, on répond et il faut venir.
Donc une fois que vous avez acheté votre revue Jeff Clack dans votre librairie préférée, donc qui est 16 € pour quand même près de 330 pages, c'est ça ?
Et un CD
de création sonore, ce qui est quand même, vous êtes, c'est pas cher vu tout ce qu'il y a dedans. Bon, c'est un peu capitaliste de dire ça, mais c'est un...
Non, parce qu'au final, on a pas d'argent, donc c'est normal. Enfin, y a une logique, la revue n'est pas chère, mais la revue n'a plus d'argent.
D'accord, non, mais... Et donc Jeff Clack pour qu'après celle de cheval y ait cheval de course. Et puis j'imagine que vous avez un site internet, peut-être que vous pouvez rappeler votre site internet si on veut vous contacter.
Oui, www.jeffclack.org et le mail c'est contact@jeffclack.org.
Merci d'être passé en plateau et j'imagine qu'on vous recevra pour le prochain numéro de Jeff Clack. Donc
rendez-vous dans un an, c'est mars 2017.
Et puis on avait fait des émissions sur les deux précédents numéros qui sont disponibles sur notre site internet www.loldf.org.